Seigneur, nous bénissons ton nom pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ta fidélité et merci pour ta grâce, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Révèle-toi à nous. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Matthieu au chapitre 20. Matthieu au chapitre 20. Matthieu au chapitre 20, à partir du premier verset. Matthieu au chapitre 20 à partir du premier verset. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Excusez-moi. Verset 2. Il convint avec eux d'un denier par jour. Et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez-vous aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ou dans d'autres versions, ce qui est juste. Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure. Et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est ce que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent aussi, croyant recevoir davantage, et ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux. Où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Alors, c'est une parabole, c'est la parole de Dieu qui est merveilleuse, qui est très belle, qui est très riche et qui est très profonde. Et c'est ce que nous allons voir ensemble par la grâce de Dieu. On va tirer quelques enseignements, il y en a beaucoup. Alors, la première chose, c'est que, vous savez, lorsque nos bien-aimés ont écrit la Bible, il n'y avait pas de titres. Donc les titres ont été rajoutés après. Et cela est valable, je le dis, soyons attentifs, valable aussi et beaucoup plus pour les paraboles. Pourquoi? Parce que je pense que nous connaissons tous cette parabole hein, qui est appelée communément. Qui peut nous dire comment on l'appelle cette parabole communément? La parabole des ouvriers. Alors, vous voyez, rien que ça, puisque moi dans ma version, ce n'est pas la parabole des ouvriers qui est écrite. Et alors, ce que je vais expliquer, c'est quoi? C'est que, en fait, c'est ça aussi l'objet d'une parabole. Quand Jésus donne des paraboles, comme je disais la semaine dernière, ça fait trois mardis qu'on fait des paraboles, et j'expliquais que Jésus parle de façon impersonnelle. Comme je disais, souvent dans les paraboles, il n'y a pas de nom. On ne cite pas le nom d'une personne, à part l'histoire dont on pense que c'est une histoire vraie, de l'homme riche et Lazare. Souvent, vous lisez les paraboles, on dit un homme avait deux fils, on dit un homme riche avait des ouvriers. En fait, on parle de façon impersonnelle, comme ça. Et là où je veux en venir, c'est que souvent, quand on donne un titre à une parabole, ça influence notre lecture aussi de cette histoire-là que nous allons lire. Je ne sais pas, s'il y a des questions, on les pose, hein. Alors, cette parabole, elle est connue sous le nom de la parabole du vigneron. D'autres diront la parabole de l'ouvrier de la dernière heure, la onzième heure. D'autres diront c'est la parabole de la première heure. En fait, tout dépend de là où on se situe pour insister sur les personnages. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Jusque-là, ça va. On pose la question s'il y a des questions. Alors, nous, on a intitulé, en tout cas, moi, j'ai intitulé, par la grâce de Dieu, la parabole d'aujourd'hui, la parabole du salaire, l'histoire du salaire égal. Puisqu'il y a d'autres titres aussi qui appellent cette histoire l'histoire du salaire égal. Puisque là, on ne veut pas insister sur l'ouvrier de la 11e heure, on ne veut pas insister sur l'ouvrier de la première heure, on ne veut pas insister sur juste le vigneron, on veut insister sur le fait que, dans cette parabole, il y a une problématique. Puisque on commence la lecture. Car, donc je vais lire ici dans cette version, la version français courant. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un maître sortit tôt le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire à leur payer. Une pièce d'argent par jour. Il les envoya dans sa vigne. Alors, jusque-là, tout va bien. On nous parle d'un homme qui, un maître, dans cette version, ici on nous dit que c'est un homme qui sort tôt le matin, donc on peut supposer, donc l'heure juive, c'était 6 heures, de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Donc, il sort tôt le matin pour prendre des ouvriers à la place public. Et vous savez, ce sont des choses qui se font beaucoup au Moyen-Orient et en Afrique, peut-être qu'ici en Europe, pour celui qui vit en Europe, on a du mal à le comprendre, puisqu'un ouvrier, il a son entreprise. Mais au Moyen-Orient et en Afrique, en tout cas, moi j'ai connu ça en Afrique, quand on a besoin d'un maçon, en fait, il y a une grande place qui est connue. Un exemple, là, je veux prendre la place Saint-Marc, par exemple. Il y a des ouvriers, des artisans qui sont là. Il y a un maçon, il y a un menuisier, il y a un peintre. Donc chacun vient avec son petit sac, avec tous ses outils dedans. Et ils s'assoient, ils attendent. Quand un monsieur vient, il dit « Tiens, j'ai besoin d'un électricien, je suis là. J'ai besoin d'un plombier. » Voilà. Et ils font un contrat comme ça, à la journée ou en fonction du travail, ça peut être sur une semaine. Mais en tout cas, la personne qui attend, le patron, il espère être embauché parce qu'il doit vivre. S'il n'est pas embauché, cela veut dire qu'il n'a pas de contrat, qu'il n'a pas de salaire à la fin de la journée. Et c'est problématique. Et donc là, on nous dit que le maître sort à cette place publique, il choisit, il voit des ouvriers, alors il les prend. Il s'entend avec eux en disant, bon, je veux vous donner du travail et je vous donne ce qui est correct, ce qui est raisonnable, ce qui est juste dans l'autre version, et ils s'entendent là-dessus. Et le contrat est signé, ils vont travailler. Et le maître ne s'arrête pas là. À 9h, donc il commence à 6h, à 9h, il sort encore, il va chercher d'autres ouvriers. Ainsi de suite. Et finalement, il se retrouve avec des ouvriers jusqu'à la 11e heure, sachant que, donc, on va dire, c'est vers 17h, la journée se termine à 18h, donc il les prend pour une heure. Et jusque-là, tout va bien. Mais cette parabole nous pose quelques problèmes. Alors, c'est la question que je veux nous poser. Est-ce que nous avons identifié, puisqu'on a décrit jusque-là Tout est bien, puisque c'est le patron. Il fait ce qu'il veut, il va chercher des gens, il s'entend avec eux, il dit « je veux vous payer, je suis juste, je m'engage à vous rémunérer à la hauteur de ce qu'on s'est entendu, et jusque-là, tout va bien. » Mais cette parabole, puisque si Jésus cite cette parabole-là, c'est qu'il y a des éléments à explorer, des éléments à identifier pour pouvoir comprendre ensemble. Et c'est ça ma question. Est-ce que quelqu'un voit ce que pose comme problème cette parabole? En tout cas, il y en a, puisqu'on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Donc la question c'est, en lisant cette parabole, quel problème ça pose? S'il y en a. Oui, Bertrand.
Pour les ouvriers de la première heure, là, le contrat est clair, puisqu'il y a le salaire. Mais pour les ouvriers de la 11e heure, il n'y a pas de contrat clair. Simplement, il leur est demandé d'aller à la vigne, mais il n'y a pas eu mention du salaire.
D'accord. Il n'y a pas eu de mention de salaire pour les ouvriers de la dernière heure. Oui, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire?
Sauf qu'à la fin, on verra qu'ils vont tous être payés le même montant. Voilà ce qui est le problème.
À la fin de la journée. Pour qui? Parce que pour ceux de la 11e heure, ce n'est pas un problème, c'est très bien.
Oui, c'est vrai. Mais bon, quand celui qui a travaillé toute la journée est payé, ce qu'il s'était entendu avec le patron, il voit que celui qui est venu et qui a travaillé une heure est payé la même chose, ben il sent comme c'est une injustice.
Injustice de qui?
Une injustice, je sais que c'était...
Non, restons dans l'exploration. Là, tu as parlé d'injustice. Qui est injuste à ce moment-là?
À ce moment-là, il va trouver que le patron est
le
injuste.
Le patron est injuste.
Ben ouais.
Voilà, c'est ça que j'ai noté. Voilà, ça pose la première question de l'injustice du patron. Alors maintenant, ma question, elle est toute téléphonée. Hein. Est-ce que le patron est injuste? Puisqu'on a lu au début que le patron va chercher qui il veut. Hein. Vous voyez, les ouvriers de la première heure auraient pu être les ouvriers de la 11e heure, puisqu'il arrive... Ce qui est curieux, c'est que il a le pouvoir, puisque j'y pensais, hein, je méditais, je disais, mais pourquoi il ne va pas tout de suite sur la place? Alors, peut-être qu'il n'y avait pas de place dans la voiture, mais je me dis, il aurait pu tous les prendre au même moment. Allez, 10, allez, venez, vous allez travailler chez moi. Mais il le fait de façon progressive. Donc, c'est-à-dire que celui de la première heure, il aurait pu se retrouver à la dernière heure, puisqu'on nous dit qu'il vient, il voit des gens, il dit « Mais pourquoi vous êtes là ?»« Mais personne ne nous prend. Allez, venez. » Il part, il revient, il dit « Mais pourquoi vous êtes là ?»« Mais personne ne nous a pris. Allez, venez. » Il part, il revient, donc voilà. Et donc, tu dis que ça pose la question de l'injustice du maître. Mais s'il était injuste, il n'aurait pas pris ces gens-là puisqu'il leur donne du travail. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est qu'il s'est engagé à payer à hauteur de ce qu'il s'est engagé, ce qu'ils se sont mis d'accord. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, est-ce qu'il est injuste puisqu'il n'a pas négocié hein, pour dire non, mais non. Donc, il a respecté son engagement vis-à-vis de la loi et même vis-à-vis de sa probité morale. Il a été correct vis-à-vis de tout ça. Mais effectivement, ça peut paraître comme si c'est pas juste. On est d'accord ou pas? Voilà, donc ça pose la question de l'injustice du maître, même si en réalité, quand on creuse, on se rend compte que... Vous voyez, bien-aimé, c'est ça la subtilité des paraboles. C'est-à-dire que Jésus raconte, il lance une histoire. La semaine dernière, je disais, puisque quelqu'un avait posé la question, pourquoi Jésus parle en parabole? Je disais la semaine dernière que, vous savez, Jésus parlait à un public. Et bien souvent, dans ce public, il y avait des pharisiens. Alors, souvent, ces pharisiens-là venaient pour l'accuser, pour lui dire, oui, mais il est faux, oui, mais regarde ce qu'il fait, oui, mais... Alors, Jésus raconte une histoire de façon impersonnelle. Maintenant, la valeur ajoutée d'une parabole, c'est quoi? C'est que c'est une histoire, premièrement, qui est inventé. Deuxièmement, tu ne peux pas l'accuser d'avoir pointé tel ou tel puisque c'est impersonnel. C'est une histoire fictive, mais qui a une vocation à donner un enseignement à chacun. Troisièmement, le but de la parabole, c'est quoi ? C'est que chacun puisse se reconnaître dans les personnages qui sont cités. Donc, je peux me reconnaître dans A, je peux me reconnaître dans B. Vous savez, la semaine dernière, on a fait l'histoire du pharisien et du publicain. Et donc, le but de la parabole, c'est que on peut se retrouver tour à tour dans la position du pharisien, puisque, ah, il m'arrive des fois de sentir que je suis meilleur que mon frère, puisque lui, il est léger, puisque lui, il est toujours en retard, moi, je suis correct. Et Jésus te dit, attention, attention, parce que toi, tu te juges en fonction de ce que tu vois, mais tu ne connais pas réellement l'état de l'autre. Seul Dieu connaît l'état véritable. En fait, c'est ça le but de la parabole. Et donc, quand Jésus parle comme ça, souvent, il amenait les gens à méditer sur leurs conditions. Et souvent, il posait la question. Hein. Dans cette parabole-là, il dit, lequel a été justifié ? Pourtant, de prime abord, on se dit, ah bah oui, mais c'est le pharisien qui est correct, qui fait des bonnes choses. Mais quand on suit finalement, on se rend compte, ah non, l'apparence n'est pas toujours réelle. Et là, dans l'apparence, effectivement, le maître est, entre guillemets, injuste. Mais quand on creuse, on se rend compte que il n'est pas injuste. Il est même, j'ai envie de dire, même généreux, puisqu'il donne autant à l'un qu'à l'autre. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Donc ça pose la question de, entre guillemets, l'injustice du maître. Quelle question ça pose encore ? Quel problème ça peut poser aussi ? Oui ?
On nous dit qu'à la fin, il fait payer les... Enfin, les gens sont payés d'abord les derniers arrivés et ensuite les premiers arrivés. Donc, ça pose le problème que ceux qui ont moins travaillé sont payés en premier et ceux qui ont plus travaillé sont payés en dernier.
D'accord. Mais est-ce que ça, c'est pas volontaire aussi ? Je pose une question un peu provocatrice. N'est-ce pas volontaire de la part du maître ?
Alors... Je vais relire.
Oui, il y a Ginette qui dit oui, oui.
Oui, parce qu'il veut s'assurer que ceux qui sont là de la première heure voient bien, entendent bien, comprennent bien.
Amen. Ça, c'est stratégique, c'est provocateur. Puisqu'on nous dit quoi ? Je le dis pas, hein, c'est écrit. Qui peut nous montrer là où c'est écrit, ce que nous disons là ? C'est volontaire. C'est écrit. Qui peut nous montrer que l'intention du maître, c'est quand même de susciter une certaine réaction de la part des premiers ? C'est écrit. Oui ?
Ben, au verset 8, le maître...
Oui.
Il dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant du dernier au premier. Donc,
oui, mais ça, ça ne nous dit pas que... Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Mais le verset 9. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers ensuite vinrent ensuite, croyant recevoir, puisqu'ils se disent, ils ont vu que les derniers ont été payés, certainement, ils se sont dit... temps de travail, l'heure, travail à l'heure. Donc forcément, si eux, ils ont un, c'est que nous, on va certainement avoir plus. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Voilà, donc c'est volontaire. Ça pose cette question-là. Oui, donc quel problème ça pose encore ? J'ai presque donné la réponse avec ce qu'on vient de dire. Un autre problème que ça pose, c'est qu'à travail égal, salaire, c'est pas le cas. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Ah ben c'est un problème ! À travail égal, salaire égal. Attends, on a travaillé depuis 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, sous le soleil, on a souffert, et l'autre il arrive, il travaille une heure, Attends, on n'a pas fait le même travail quand même. Ça, c'est pas normal. Donc ça pose ce problème-là. Est-ce que quelqu'un d'autre voit encore un problème que cette histoire pose ? Il y en a beaucoup, hein, mais on ne peut pas tout citer. Oui, Ado ?
Oui, c'est des interventions des internautes. Donc, sentiment d'injustice pour les ouvriers de la première heure contre ceux de la dernière heure. Et de la deuxième intervention.
Sentiment d'injustice.
Oui.
Moi, j'ai noté autre chose. Je ne dirais pas sentiment d'injustice.
Pour les ouvriers de la première heure contre ceux de la dernière heure.
Non, l'injustice, je dirais par rapport au maître. Je suis d'accord. Mais les ouvriers entre eux, moi, je dirais plutôt de la jalousie. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, hein, parce que je l'ai noté. Ça relève quand même la jalousie des autres qui se disent, bah non, mais attends, pourquoi c'est pas normal qu'il reçoive ça alors qu'il n'a pas travaillé comme nous. C'est pas normal. Donc oui, il y a la question de l'injustice, mais ça c'est par rapport au maître, parce que c'est le chef. Eux, ils n'ont pas demandé, mais oui, effectivement, ça pose aussi un problème de jalousie, puisqu'on se dit, mais pourquoi moi j'ai fait beaucoup, je me suis sacrifié. Et lui, il arrive, il a la même chose. C'est pas normal, ça. Oui, je te laisse.
Une deuxième intervention. Donc, le patron est sage. Il emploie en fonction de l'avancement des travaux chez lui. De plus, certains corps de métier interviennent qu'après que d'autres soient déjà passés. Exemple, placo plus électricité.
Non. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Oui. Là, on n'est pas. Là, c'est la vigne. Donc, ils ont la même mission. C'est bien essayé par l'internaute. Non, là on part du principe qu'ils ont une mission identique. La fiche de poste, la fiche métier, c'est la même. Donc ils ont la même, fiche de poste. Ok.
Oui, j'allais dire, est-ce que dans ce cas, le patron, enfin, c'est lui, le maître, c'est lui qui engage, mais c'est lui qui peut définir ses règles à lui?
C'est lui qui peut définir ses règles, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on a vu. Mais dans la définition de ses règles, il reste quand même dans la légalité puisqu'il n'a pas été malhonnête.
Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il a été à la fois juste et généreux, juste avec les premiers, les ouvriers de la première heure, puisqu'ils se sont convenus d'un denier qui va leur payer, donc ça paraît, c'est la justice. Avec les autres, il a dit qu'il leur donnera... en fonction, voilà, de comment il voudrait. Donc, on peut dire qu'il a été généreux avec les autres.
Oui, il a été généreux, mais n'empêche que ça a posé quand même un problème puisque les autres ont murmuré, ils n'étaient pas contents. Donc, ce qu'il y a une réalité, c'est que ça a mis les gens mal à l'aise. Et en fait, c'est ça aussi le but de Jésus en donnant cette parabole, c'est nous amener à comprendre que parfois, il y a des attitudes qui peuvent nous déranger. Dieu peut faire des choses qui peuvent... Bah, nous mettre mal à l'aise, on va se mettre à murmurer, à se dire, mais c'est pas normal. Voilà, donc c'est ça. Donc on a cité le fait qu'on peut avoir le sentiment que le maître est injuste, on peut avoir le sentiment que c'est pas normal, puisque à travail égal, salaire égal, on peut aussi dire qu'il y a la question que ça pose, c'est qu'on voit la jalousie des ouvriers, mais il y a encore... beaucoup d'autres choses, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, sinon on va... Oui, Boris, derrière.
C'est une remarque, quelque chose qui m'interpelle, c'est que les derniers ouvriers, là, ils sont allés sans savoir combien ils allaient être payés, en fait. C'est juste une remarque, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça.
Alors, quoi dire par rapport à ça, c'est... Bon, je répondrai ça à la fin. En fait, je répondrai à la fin, parce que si je réponds maintenant, je vais donner... En fait... Je réponds quand même, c'est que le plus grand privilège, c'était d'être employé par le maître. Voilà, c'est ça le plus grand privilège, c'est que, comme je vous expliquais, vous savez, ces gens-là qui travaillent, qui se mettent à la place publique, au Congo ou partout, je ne sais pas, même au Moyen-Orient, comme ça se faisait ici, bah, que le patron t'appelle pour te dire, tiens, viens, tu vas travailler chez moi, bah, tu te dis, ouf, aujourd'hui ou demain, ma famille aura de quoi manger, quoi. Peu importe ce qu'il me donnera, en plus, il y a une autre raison qui fait qu'ils ne savent pas le salaire, c'est que, bon, ils sont à une heure de la fin de la journée, hein. Ils ne vont pas chipoter. Hein. Vous savez, vous avez été dans les marchés, hein, vous avez vu un peu comment ça se passe dans les marchés. Quand tu arrives à la fermeture du marché, parfois des fruits qui étaient vendus à 10 euros le kilo, bah, la personne peut brader ça à 2 euros. Hein. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la fin de la journée, tu arrives, ah, tu as combien? Ah, prends. Parce qu'il se dit, bon, je vais rentrer chez moi. Donc c'est la fin de la journée, finalement, le prix n'est plus le même. Et voilà, il ne va pas avoir la fraîcheur de négocier comme s'il était à 7h du matin. Il dit, bah, attends, t'es malade, toi, mes fruits. Mais voilà, donc c'est que, à la fin, bah, on est moins exigeant, on prend ce qu'on me donne. Voilà, on prend ce qu'on me donne. Oui, il y a une intervention.
La source de la jalousie aussi, la comparaison. Dans le sens où même si on les met côte à côte, mais même si je vois ce qu'on donne à l'autre, je m'occupe de moi, en fait.
C'est ça, ça pose aussi, mais voilà, c'est un point que j'ai mis aussi dans les enseignements. Donc là, on est, premier point, les problèmes que pose cette histoire, puisqu'il y a un problème. Donc, mais j'ai mis aussi ce point-là dans les enseignements, c'est que attention à chercher à se comparer. En français, on dit comparaison n'est pas raison. Voilà. Parfois, on se compare juste pour les éléments visibles qu'on a, mais on ne sait pas la réalité des choses qui sont cachées et tu peux t'essouffler comme ça. Tu as un collègue, vous avez le même salaire, mais le type, il vient avec des voitures, des choses compliquées. Mais toi, tu as ton salaire, mais lui, il est peut-être rentier, hein, il est fils de je ne sais pas qui. Hein. Donc, tu vas faire le poids puisqu'on a le même salaire, et voire même tu gagnes plus, mais tu ne sais pas que lui, c'est quand il rentre... Et voilà, donc comparaison n'est pas raison. Voilà, c'est un des très bons enseignements, mais j'ai prévu ça pour plus loin. S'il n'y a pas d'intervention, donc on va rapidement explorer un peu le texte. Oui, Jacques Frel. Oui, ça je ne l'ai pas noté, mais effectivement, oui, gloire à Dieu, oui, c'est vrai. Ok, donc car le royaume des cieux est semblable à un maître, donc verset 1er, de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Donc il convient d'un denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Alors, ce qu'on peut dire là, donc je méditais, il dit, mais ça revient souvent, hein, sans rien faire, donc on le voit au verset 2, on voit encore au verset 6, étant sorti, donc il sortit de nouveau verset 5, à la 6e heure, vers la 9e heure, et il fit de même, étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Vous voyez que c'est quelque chose qui revient. Bah oui, ils disent, mais. Et ceux de la 11e heure disent, mais maître, personne ne nous a choisi. Comment tu prétends qu'on ne fait rien? On est oisif comme ça. En fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que, vous savez, dans ce monde, on peut être dans l'activisme, on peut faire beaucoup de choses. Mais Psaume 127 dit, si l'Éternel ne bâtit, tout ce que l'homme fait est vain. Donc, quel que soit le travail qu'on fait, vous savez, quand Dieu n'est pas la source du travail qu'on fait, ou alors quand le travail qu'on fait n'est pas pour Dieu, même si on construit, bien aimé, il suffit qu'on enlève ce travail-là, il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien, bien aimé. Vous savez, il y a des gens qui n'ont dans leur vie que le travail. Hein. Et quand ils arrivent à la retraite, c'est la dépression directement, puisque en fait, c'est le travail qui, pour eux, fait qu'ils sont quelqu'un. Ils ont besoin de, voilà, quand il est à la retraite, d'adhérer à des associations, être... Il a besoin, puisque c'est ça qui lui apporte quelque chose. Voilà. Et quand on enlève ça, il n'y a plus rien. C'est ça la réalité, bien-aimée. Et c'est ça que cette expression-là peut nous apprendre. C'est que tout ce qu'un humain fait, s'il ne le construit pas pour des choses éternelles, finalement... C'est comme s'il n'a rien fait, quoi. C'est comme si c'était une perte de temps. C'est comme si c'était une perte de temps, puisque Dieu n'est pas là-dedans. C'est ça, bien-aimé. Et c'est une réalité qu'on peut voir. Et on continue, il dit au verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, verset 7, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, l'heure, dit-il. » Alors, un des enseignements, ça c'est des enseignements intermédiaires, hein, puisque j'ai des grands enseignements qu'on va donner à la fin, mais un autre enseignement qu'on peut lire là, c'est que, vous voyez, il y en a qui ont été pris, puisque cette parabole, on peut comprendre aussi que c'est l'appel du Seigneur. Donc, il y en a qui ont été pris à 6 heures, d'autres à 9 heures, d'autres un peu plus tard, et eux, ils arrivent au dernier moment. Et vous savez, bien aimé, c'est que il arrive quelquefois qu'on ait l'impression que nous sommes en retard, quoi. Les autres ont commencé depuis longtemps. Les autres ont commencé à travailler, les autres sont mariés, ils ont des enfants, il a une maison à 25 ans, 20 ans, il a tout, il a tout. Et parfois, ça peut donner le sentiment que je suis en retard. Mais vous savez ce que Joël 2, 25 à 28 dit, hein, que l'Éternel dit à Israël que je vais rattraper même toutes les années que les sauterelles, les gélecs, tout ce qui a été dévoré, moi l'Éternel, j'ai la possibilité de rattraper ça en un instant. C'est ça la réalité, bien-aimée. Il y a des gens, on a l'impression qu'ils sont partis loin depuis très longtemps. Mais avec Dieu, bien-aimée, en quelques instants, tu les rattrapes et tu les dépasses même. Il y a des gens qui ont fait des choses depuis très longtemps. On pense qu'il est expert, mais en réalité, ben, il a fait par lui-même. Mais vous savez, quand tu as Dieu avec toi, il te fait rattraper le temps perdu. C'est ça, bien-aimé, ce que cette histoire nous raconte. C'est ceux de la dernière heure, ils pouvaient certainement se lamenter en disant « Mais les autres, ils sont partis avant, ils ont, j'aime pas le mot chance, hein, mais ils ont été pris. Nous, personne ne s'est occupé de nous. » Bien-aimé, l'exhortation de ce soir, c'est de dire « Il faut arrêter. » Comme ça a été dit par le diacre tout à l'heure, « Arrêtez de considérer Dieu comme si il était quelqu'un de léger. Dieu est sérieux, bien-aimé. Même si on a l'impression qu'on est en retard. Mais vous savez, c'est l'histoire de Lazare. Hein. 4 jours en retard, mais 4 jours à l'heure, puisque Dieu n'est jamais en retard. Voilà. C'est ça, bien-aimé, la puissance de Dieu. Oui, mais il sent déjà. Oui, mais. Il dit, allez, montrez-moi où il est. Roulez la pierre. Lazare sort. C'est ça, bien-aimé. Un des enseignements importants de cette parabole, c'est que il y a des gens qui courent. Toi, tu commences ta course en retard, mais la course qu'ils font, peut-être qu'ils vont rencontrer tellement de difficultés que finalement, vous allez vous retrouver au point de départ. Vous allez vous retrouver au même point. Tu vas les rattraper et ça fait encore plus mal parce qu'ils sont partis depuis très longtemps. C'est ça, bien-aimé. Donc, l'exhortation, c'est dire, bien-aimé, avec Dieu, tu ne perds pas de temps. Dieu sait ce qu'il fait. Il est au courant de tout. Même quand on a l'impression que les autres sont toujours bien, les autres bénéficient, bien-aimé, c'est faux. Dieu sait. S'il permet qu'il y ait comme une sorte de pause dans notre vie, c'est parce qu'il a ses objectifs à lui. Voilà. C'est parce qu'il a son but à lui. C'est parce qu'il a des choses qu'il veut faire. Comme dans Jean 9, on dit, mais pourquoi cet enfant, cet homme est né comme ça? Est-ce que... Il dit, non, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est ça. Il nous arrive souvent de penser qu'on est en retard, mais ce sont des faux raisonnements. Alors, on continue, verset 7. Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez ainsi aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelez les ouvriers et payez-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Bon, ça c'est un commentaire que j'avais déjà donné, mais on l'a déjà donné. En fait, le maître veut que les derniers soient payés devant les autres pour que les autres voient ce qu'ils ont. Donc on s'attarde pas là-dessus. On continue, verset 10. « Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. et dire « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Verset 13. Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier ?» On peut s'arrêter là. Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'interpelle ici, c'est qu'on nous dit au verset 11, hein, « En recevant, ils murmurèrent. » Donc, ils étaient un certain nombre, hein, on ne sait pas combien, mais il y avait un effet de groupe. Ils disent, « Oh là là, t'as vu combien ?» Oh, c'est pas normal ça, comment ça se fait Alors moi, ce qui m'interpelle, c'est que on passe du groupe au verset 13, il répondit à l'un d'eux. Alors, le maître ne répond pas à tous, il répond à un seul. Ça vous interpelle ou pas, non? Bon, moi, ça m'a interpellé, je me suis dit, mais c'est curieux, puisqu'il aurait pu dire à tout le groupe, mais pourquoi, c'est quoi le problème? Non, il interpelle un. Alors, un des enseignements ou une interprétation qu'on peut tirer de cela, c'est que, vous savez, bien aimé, la justice de Dieu est toujours quelque chose d'intersubjectif. Ça veut dire, c'est toujours personnel. La justice de Dieu est toujours... Et même la justice humaine, hein, vous savez, quand il y a des effets de meutes, des bandes, même si vous êtes 10, je peux te dire qu'en garde à vue, tu es tout seul dans ta cellule. Hein. Voilà. Dans la garde à vue, tu es tout seul dans ta cellule. Et devant le juge, tu seras jugé tout seul en fonction de ce que tu as fait. Même si c'est quelque chose en bande organisée, mais tu seras seul. Et donc ça, c'est un enseignement qu'on peut tirer. C'est qu'ils murmurent tous ensemble, mais le maître interpelle un. Et c'est curieux, hein, puisque il dit à cet homme-là, comment il appelle cet homme-là ? Mon ami. Alors, moi, ça m'a interpellé. Je me dis, mais pourquoi il appelle mon ami? Vous savez, bien-aimé, il y a des choses comme ça dans la Bible qui interpellent. Vous savez, quand Dieu appelle ou Jésus appelle quelqu'un mon ami, souvent, ce qui va suivre n'est pas toujours quelque chose d'agréable à entendre. Je vais donner un exemple. Hein. Dans Matthieu 22 au verset 12, on se rappelle de la parabole des noces. Vous vous rappelez de l'histoire où le maître appelle ses amis, personne ne veut venir, il dit allez, va sur la place publique, prends des gens, les méchants, les bons, tout le monde, allez, dans la même sauce. Et il y a un homme qui arrive sans la tenue. Et vous savez, le maître vient et dit mais comment il appelle, le maître appelle comment cet homme-là? Mais mon ami, comment tu es arrivé ici comme ça? Alors, c'est curieux. Et la troisième fois où le Seigneur utilise ça, c'est en parlant à Judas. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend, vous savez, le Seigneur dit, mon ami, c'est que ça nous donne aussi une définition de l'amitié selon Dieu. La véritable amitié, c'est que un ami, c'est quelqu'un avec qui je peux dire des choses et même des choses qui ne sont pas toujours agréables. Mais je lui dis des choses clairement. C'est ça. Quand le maître dit, mais mon ami, il s'apprête à lui dire quelque chose qui ne va pas lui faire plaisir. C'est ça la réalité. Mais mon ami, d'où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon, je fais ce que je veux de mon bien. Alors, où est le problème? Et c'est ça, bien-aimé. S'il n'y a pas de questions... On continue, hein. On continue, il y a beaucoup de choses à voir. Alors, prends ce qui te revient, verset 14, va-t'en, je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Où vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Alors, dans les enseignements que j'ai notés ici, c'est que le premier enseignement qu'on a cité, c'est que ce maître, on peut considérer que c'est Dieu. Et Dieu est souverain. Et il fait ce qu'il veut. Ça, c'est un des premiers enseignements qui est important à tirer de ce texte. Mais en plus de sa souveraineté, Dieu est bon. Et la bonté de Dieu, bien-aimé, n'est pas toujours comprise par l'homme. La bonté de Dieu, je veux même plus loin. L'homme ne l'accepte pas toujours. Bien-aimé, on a des exemples hein, dans la Bible. Vous savez, lorsque Dieu dit à Jonas, « Va dire à Ninive que je vais détruire Ninive. » Et finalement, Jonas prêche, Ninive se reprend, et Dieu décide de ne pas punir, détruire Ninive. Jonas, qui était serviteur de Dieu, il a eu du mal à comprendre, à accepter ça, bien-aimé. Vous savez, la bonté de Dieu, un autre exemple, Luc 15, à partir du verset 25, c'est l'histoire de qui ? Du fils prodigue. Mais qui est dérangé dans cette histoire-là ? Le fils aîné. Il dit, mais attends, mais c'est pas normal. Mon frère qui a tout abîmé, tout dilapidé, il revient et tu le reçois comme ça. Et moi, je suis avec toi tous les jours. Et tu ne me traites pas de cette manière-là. Le père dit, oh mon fils, mais je suis tous les jours avec toi. Et tout ce qui est à moi, est à toi, il te suffisait de demander. Bien-aimé, ça c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter, la bonté de Dieu. Vous savez, on a une certaine logique au fond de nous qui nous dit que nous, mais non, c'est un peu trop facile, quoi. C'est un peu trop facile. Et un des problèmes qu'on n'a pas cité, puisqu'on est passé, que cette parabole pose, c'est ce que j'avais noté, ça me revient, hein, mais je l'ai noté, un des problèmes que cette parabole pose, c'est de se dire, bah, à quoi bon se préserver, quoi ? À quoi bon souffrir, alors que bah, le dernier qui arrive, il bénéficie finalement de la même chose que nous, quoi. On se rappelle du voleur à la croix, le bon larron, hein. À quoi bon souffrir ? Parce que dans la vie chrétienne, il y a quand même des jeûnes, il y a les temps de prière, il y a ceci, il y a cela. Alors on se dit, mais à quoi bon faire tout ça si au final, bah, l'autre bah, qui était dans n'importe quoi, n'importe quelle vie, bah, s'est converti et puis au final, il s'en sort quand même. Bah, ça pose un problème. Ça pose un véritable problème. Donc on a dit, le premier enseignement, le grand enseignement, c'est que la bonté de Dieu, l'homme a du mal à accepter cela. L'homme a du mal à comprendre cela. On a du mal. Et l'exhortation, c'est que Dieu nous fasse grâce de pouvoir voir les choses telles que lui, il les voit, telles qu'il les considère. Vous savez, lorsque Dieu a touché, lorsque Jésus a touché Saul de Tarse et qu'il a parlé, vous vous rappelez, hein, Ananias en disant, écoute, j'ai parlé, j'ai touché. Vous savez ce qu'Ananias a dit, hein? Vous vous rappelez, non, de ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Mais Seigneur, cet homme-là, mais il tue les chrétiens! Il nous tue! Donc toi, tu veux que j'aille prier pour quelqu'un qui nous tue? Dieu lui dit, écoute, calme-toi. C'est un instrument que j'ai choisi. Bien-aimé, c'est cela, la bonté de Dieu, ça nous dépasse. Vous savez, c'est le chant qu'on chante, hein, l'amour de Dieu, de loin surpasse. Même dans l'abîme, même dans le noir, le plus obscur, Dieu va chercher l'homme. De la même manière que le maître, c'est lui, le patron, qui est allé chercher les ouvriers. C'est lui qui est parti les chercher. Personne ne lui a imposé les ouvriers. C'est lui qui est allé les chercher. Tiens, allez, viens. Tiens, allez, toi, qu'est-ce que tu fais? Allez, viens aussi. Toi, qu'est-ce que... Viens. Peut-être que certains diront, oui, mais il n'y aura pas assez de boulot pour tout le monde. Mais non, mais c'est pas votre problème, c'est mon problème. C'est moi qui prends, puisque c'est moi qui paye. Et ça, c'est quelque chose qui pose problème à l'homme. Que le Seigneur nous fasse la grâce de pouvoir saisir la bonté de Dieu. Combien Dieu est bon. Dimanche, on a vu que Dieu est patient. Et parfois, sa patience, vous savez, on a oublié de dire ça dimanche, hein. On a dit premièrement pourquoi Dieu était patient, parce qu'il ne veut pas être dans la coercition, il ne veut pas contraindre, forcer l'homme. Il pourrait le faire, forcer l'homme à croire en lui. Non, il ne veut pas. Il veut que ça soit quelque chose de personnel, de choisi. Mais une des raisons aussi de la patience de Dieu, c'est que le cœur de l'homme est dur, vous savez, bien-aimé. L'homme est orgueilleux. Hein? L'homme est très dur. Et parfois, Dieu utilise le temps. Il peut agir. On a vu un dimanche, Pharaon, il a dû faire tomber 10 plaies. Pourtant, il dit à Moïse, regarde ce que je vais faire à Pharaon. Je vais étendre ma main puissante. Mais vous savez, je me mettrai à la place de Moïse. Je me dis, ah, ça y est, c'est bon. Dieu va frapper un bon coup. Pharaon va comprendre. Mais non, Dieu vient par dose homéopathique. Première plaie. Pharaon est agité. Et Moïse, viens. Allez, c'est bon. Ok, Dieu arrête. Pharaon reprend. Allez, Moïse, il frappe encore. Et 10 plaies, bien-aimés. Est-ce que ça a suffi pour que Pharaon puisse s'humilier définitivement? Non. C'est ça, bien-aimé. La bonté de Dieu, c'est quelque chose qui peut nous énerver. On se dit, mais c'est pas possible. Ben oui, c'est ça. Un autre enseignement que j'ai noté, c'est que c'est la logique de la grâce et des œuvres. C'est que, vous voyez, ces hommes disent, hein, c'est ce qu'ils disent au verset 11, en le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers, vous voyez le mépris quand même, quoi, n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Donc ils estiment que, mais nous on a fait beaucoup de sacrifices. En plus c'est pour toi, hein, c'est pas pour nous. Hein. On a travaillé sous le soleil, nous on a fait beaucoup, nous on travaille depuis longtemps. Nous, on était dans les jeunes. C'est nous qui avons commencé l'église. C'est nous qui étions là. Tu sais, l'estrade là. Ben, c'est moi qui l'ai bâtie, c'est moi qui l'ai construite. Hein. Et tu construis l'estrade comme ça toute la nuit, comme ça a été au 108. Et derrière, un jeune converti, 2 semaines après, il monte sur l'estrade pour prêcher et toi, tu ne prêches pas. Ah, mais attends, c'est moi qui ai construit ça? Le petit là, il arrive, il commence à nous enseigner. Bien-aimé, c'est ça. Ces gens se disent, mais c'est pas normal. Nous, on a travaillé, on a souffert. Et c'est bien normal qu'on puisse prétendre à quelque chose. Pourtant, le maître n'a pas été dans l'illégalité. Il a été loyal et juste. Et on arrive à notre troisième point, enseignement. C'est pour ça que j'ai intitulé la parabole du salaire égal. La question maintenant, c'est que le salaire, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut nous dire c'est quoi le salaire finalement? Ou quelqu'un a une idée? C'est quoi le salaire finalement? Quelqu'un a une idée? Oui, d'accord, Jean.
Bon, j'interviens dans le sens... je vais donner 2 réponses. C'est le Saint-Esprit et le salut.
Et le salut, mais ce n'est pas écrit dans... Où est-ce que tu vois ça dans cette histoire-là? Restons vraiment scripturaires, ce n'est pas écrit. C'est vrai, je comprends ce que tu dis dans le sens où... Comme la Bible dit que nous avons reçu le gage du Saint-Esprit, quand on a reçu Jésus, tous on a reçu le Saint-Esprit. C'est ça, c'est dans cet esprit, c'est dans cette idée-là que tu dis ça.
Ok.
D'accord. Mais ça, c'est, on est dans une interprétation, comment on va dire ça? Une explication allégorique. Voilà, lecture allégorique. Mais là, restons juste sur l'idée du texte. Finalement, le salaire, oui, Michel veut parler.
C'est la contrepartie d'un salaire, c'est d'un service rendu.
Non, ça c'est la définition, mais dans le texte, que représente le salaire?
C'est d'avoir pu travailler avec le patron.
Amen. On va expliquer ça. Bien-aimé, le salaire ici, c'est d'avoir été choisi par le maître pour travailler pour lui. C'est ça le salaire. En fait, ces gens se sont dit, le salaire, c'est le denier qu'on va me donner. Et donc, en fonction du travail que j'ai fait, j'aurai plus ou moins de deniers. Mais le maître est en train d'apprendre ici que le salaire, en réalité, c'est que j'étais choisi pour venir chez moi, puisque j'aurais pu ne pas le faire. Donc le fait que je te choisisse pour être à mon service, c'est la plus grande récompense. Bien-aimé, et c'est ça que Dieu veut nous faire comprendre. Alors, ça c'est l'enseignement général. Maintenant, il y a des enseignements intermédiaires. C'est que, bien-aimé, ce que j'ai noté ici, hein, c'est que l'entrée, et c'est ça même une des leçons de cette parabole, hein, c'est que l'entrée dans le royaume des cieux est une question de privilège et non pas de mérite. Je vais m'expliquer. L'entrée dans le royaume des cieux, c'est pas parce que j'ai fait ci ou parce que j'ai fait ça, non. C'est parce que Dieu t'a choisi. Et tu dois le voir, le recevoir comme un privilège et non pas quelque chose qui est dû. Est-ce qu'on se comprend ou pas? En fait, il apprend à ses ouvriers de la première heure que le fait que vous soyez à mon service, vous êtes privilégiés. Puisqu'en réalité, vous êtes tous pareils. Je vous considère de la même manière. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fait des beaux yeux qui ont attiré mon regard pour que je vous prenne. Non! Puisqu'ils tous, ils n'avaient pas travaillé. C'est le maître qui vient, qui choisit, qui dit, tiens, allez, toi viens, allez, viens, venez, vous allez travailler pour moi. C'est ça, bien-aimé. L'enseignement de cette histoire, c'est que entrer au ciel, c'est pour nous un privilège. Ce n'est pas une question de mérite. Éphésiens 2, 8 à 10. Un autre enseignement, on va revenir sur l'enseignement général, hein, ce qui est le salaire, c'est le fait de travailler pour le maître. Mais on va donner quelques autres enseignements intermédiaires. C'est que, bien-aimé, c'est ce que j'ai noté, ne pas se sentir supérieur à cause d'un privilège ou d'une position qu'on peut avoir dans le service de Dieu. Vous voyez, ces gens de la première heure, ils se sont dit, puisqu'on a été pris les premiers, ben on peut prétendre à plus de choses que les autres. Et c'est ça, bien-aimé, l'erreur dans laquelle beaucoup tombent. C'est qu'on pense que puisque je suis pasteur, puisque je suis chantre, puisque je suis un tel, puisque je sers beaucoup, puisque je voyage beaucoup, puisque je travaille à temps plein pour le Seigneur, puisque... En fait, cette parabole nous dit, pas du tout. Il faut voir les choses plutôt en termes de privilège. C'est un cadeau que Dieu fait. Puisque Dieu peut faire aussi que tu sois malade. De toutes les façons, l'œuvre de Dieu sera faite. Si ce n'est pas par toi, ce sera par quelqu'un d'autre. Vous savez, bien-aimé, l'œuvre de Dieu... Et personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Hein. Nous sommes tous là pour voir. Je discutais avec quelqu'un. Je disais, mais regarde les vidéos de la chorale. Tu verras qu'il y a 20 ans en arrière, vous comptez les choristes, vous allez voir qu'il en reste peut-être un ou deux. Pourtant, aujourd'hui, on est peut-être 30 ou je ne sais pas combien. Mais si vous regardez 20 ans en arrière, vous allez voir qu'il y a des gens, on se dit, mais si lui, il n'est pas là, comment ça va fonctionner? Mais bien aimé, l'œuvre de Dieu, Dieu ne manque pas de ressources. Dieu ne manque pas de ressources. C'est ça la réalité, bien-aimé. Avec ou sans toi, Dieu fera son œuvre. C'est ça. Donc ne pas penser que, puisque je suis à telle place, moi je suis privilégié, moi je suis... Non, c'est faux. Un autre enseignement que j'ai noté, c'est ce que Céline a dit, ne pas convoiter les bénédictions qu'on peut voir chez les autres. C'est ça, bien-aimé. On est tous chantres. L'autre, quand il chante, les gens à la fin viennent, ah, vraiment, l'adoration, gloire à Dieu. Toi, quand tu chantes, il n'y a rien. Et parfois, quand c'est comme ça, la personne vient faire le commentaire, ah, vraiment, aujourd'hui, c'était très bien. Hein? Donc, sous-entendu, l'autre fois, mais vous savez, quand c'est comme ça, tu te dis, ok. Donc, moi, on ne me voit pas, on voit que le bien-aimé. Vous savez, le diable est très fort pour faire ça. Hein? Le diable est très fort pour diviser. Vous savez, c'est juste une parole comme ça. Ah, quand c'est la sœur Intel qui chante, waouh! Et donc toi, tu es là, tu te dis, ah, nous là, avec nos voix de casserole bien-aimées, voix de casserole, si tu aimes le Seigneur, tu aimes Jésus, Jésus va embellir ça. Ce que Jésus veut, c'est le cœur. C'est le cœur, bien-aimé, c'est pas la belle voix. Vous savez, toutes les belles voix, là, les Whitney Houston, tous ces gens-là, ils ont commencé à chanter où? Dans les églises, hein? Le showbiz te remarque, allez tiens, viens, on va faire, on te fait, on dit, regarde, tu vas gagner 50 millions. Mais on voit tous comment ça finit, hein, toutes ces choses-là, hein, on voit comment ça finit. C'est ça. Ne pas chercher à regarder. Chacun a reçu. On va lire ça, j'avais pas prévu, mais on va le lire quand même, 1 Corinthiens 12, pour finir. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 1er, on peut commencer. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare nul s'il parle. On peut sauter ça, on va directement au verset 4. Alors, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, bien-aimés, c'est ça que nous devons comprendre. Et je vous invite à lire la suite à la maison. En fait, Paul est en train d'expliquer que nous formons un corps. Et pour que le corps fonctionne bien, il faut qu'il y ait différents membres. Puisque si tous les membres font la même chose, à un moment donné, ben, il y aura un problème. Il faut bien qu'il y ait l'œil, il faut bien qu'il y ait le doigt. Il faut bien qu'il y ait le nez pour sentir. Il faut bien, parfois le nez sans... Quand il y a une fumée, il y a un danger, il y a le feu. Donc chacun, même si l'œil n'a pas vu, le nez peut sentir. Oh, là, il y a un danger. Donc le nez va prévenir. Parfois, l'œil n'a pas vu, le nez n'a pas senti. Mais l'oreille, en tant qu'il y a une détonation, il dit, ah, il faut que je m'apprête à fuir. Donc c'est-à-dire qu'on est encore chacun à son rôle. Et comme l'apôtre Paul explique là, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit qui distribue ça de façon coordonnée. C'est ça, bien-aimé. Et un des enseignements ici, c'est nous dire attention de vouloir la même chose que l'autre. Attention. Dieu distribue par son esprit comme il veut. C'est comme ça, il a décidé. Ce que l'autre va faire avec facilité, toi, tu vas mettre peut-être 10 jours à travailler. L'autre, vous savez, il y a des gens, on donne un chant, il écoute une fois, tac, il te le reproduit directement. Il a juste écouté une fois. Alors que l'autre, nous autres, bah, il va falloir travailler, écouter, travailler, écouter, travailler. Mais c'est comme ça, Dieu a fait les choses ainsi. Et on doit accepter ça, bien-aimé. Ne pas chercher à envier l'autre. Vous savez, l'image que j'avais, on va finir, hein, l'image que j'avais en lisant ce texte, l'image qui m'est venue, c'est l'image d'une équipe de... Bon, ce qui me vient, c'est une équipe de foot. Vous savez, finale, Coupe du Monde. Le coach te fait rentrer 5 minutes avant la fin. Vous gagnez la coupe. Ou même si tu n'as pas joué, on t'appelle comment? Champion du monde. Donc même si tu joues que 5 minutes, ces 5 minutes là, l'autre a joué 90, toi tu n'as joué que 5, mais je peux te dire que oui, peut-être que bon, tu aurais voulu, mais tu es content. Parce que c'est quoi le plus important? C'est que tu es rentré, tu as joué. Tu as foulé le sol. Vous savez, parfois c'est ridicule. Hein, 95e minute, le coach dit, allez, échauffe-toi. Alors, bon, moi, je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai pas fait le foot à un certain niveau. Mais je me mets à la place du joueur. Je dis, mais c'est ridicule. Il y a des courageux qui vont dire au coach, ah non, non, ton match, tu le gardes pour toi. Mais celui qui est intelligent, il dit, ah, c'est peut-être un test. Peut-être qu'au match, au prochain match, ça se trouve, si j'ai une bonne attitude, je vais commencer le match. Oh, mais l'idée, c'est quand même que, bon, le coach me fait rentrer, je rentre. Même si quand je rentre, on siffle la fin, bon, j'ai touché la pelouse. Parfois, je peux aller toucher un peu de ballon, et puis après, je rentre dans les vestiaires. C'est tout, ça me suffit. Vous voyez, bien aimé. Et là, le plus grand enseignement, c'est que le salaire, c'est d'être au service du maître, de travailler pour le maître. C'est ça, le plus grand salaire. C'est ça que j'ai noté, bien aimé. Et c'est ça qui est plus grand que tout. Dieu veut nous délivrer de la logique comptable, où on se dit travail égal, salaire égal. J'ai sacrifié, j'ai fait ci. Vous savez, cette parabole-là, elle fait réponse, elle fait suite à une question que Pierre a posée à Jésus. Hein. Vous lirez ça à la maison, hein, au chapitre 19. Pierre pose la question, mais Seigneur, nous autres ici, on a abandonné tout pour te suivre. Qu'est-ce qu'on va avoir en retour? Vous voyez pourquoi Jésus donne la parabole? Jésus ne répond pas directement à Pierre. Hein. Peut-être que Pierre va être vexé. Jésus raconte cette parabole pour dire attention, c'est pas parce que vous êtes venu en premier que vous avez sacrifié tout, que pour Dieu, vous avez une place spéciale. Non, oui, les récompenses, puisque quelqu'un peut me poser la question, la récompense, elle n'est pas liée à la charge de travail. La récompense que Dieu nous donnera au ciel, elle est liée à la fidélité. C'est-à-dire que si Dieu t'appelle à balayer, que tu fais ton travail avec sérieux de balayage, bah, tu auras la récompense liée à ta fidélité. Si le prédicateur, il prêche, il est vu par tout le monde, mais qu'il n'a pas été fidèle, bah, il n'aura pas sa récompense. Donc on soit bien d'accord là-dessus. Mais ici, le privilège, bien-aimé, c'est d'être au service du maître. Que le maître te choisisse pour travailler. C'est ça que Jésus est en train de dire dans cette parabole. En fait, le salaire, ce n'était pas le denier. Le salaire, c'était d'être invité par le maître. C'est ça. Il est en train de dire, mais tu ne te rends pas compte que être avec moi, c'est plus que le denier là que je donne. La preuve, regarde, le denier, je le donne à tout le monde. Mais être avec moi, être près de moi, c'est plus que... Vous savez, en politique, je m'arrête là. En politique, je n'ai pas fait la politique à un certain niveau, mais ce qu'on peut entendre, vous savez... Parfois, quand le président n'est pas d'accord avec un de ses conseillers, il peut l'éloigner. Hein. Mais vous savez, l'éloignement, là, souvent, ce sont des postes dorés, hein, comme des parachutes dorés. C'est parfois ambassadeur ou consul de France à New York. Bien aimé, je peux vous dire que ce n'est pas des postes négligeables. Hein. Mais j'écoutais un conseiller qui expliquait que lui, ce qu'il préférait, c'était rester à l'Élysée auprès du président. Pourquoi? Puisque c'est là que tout se décide. Quand il y a un dîner improvisé, toi tu es dans les petits papiers, on te dit tiens, allez, il y a un dîner, il y a 3 personnes, 4 personnes. Mais imagine, toi tu es au Zimbabwe là-bas, ambassadeur de France au Zimbabwe. Bien sûr, tu as tous les détachements, tous les avantages, tout ça. Mais tu n'es pas dans les petits papiers. Donc quand il y a une urgence, le président ne pense pas à toi. Voilà pourquoi ce conseiller-là expliquait, il disait que tout le monde, les proches du président, cherche à être dans son entourage, puisque c'est là que tout se décide. Ils savent même avant tout le monde, parfois même avant le Premier ministre, que ah, tel va être nommé. Tel va... Pas, pourquoi? Parce que la proximité. Puisqu'il est proche, il sait ce que le président a décidé par rapport à ci. Il sait ce que le président va dire au discours. Il sait ce que le président va faire demain. Il est proche du président. Et il explique que ça, c'est plus que tous les autres postes qu'on va te donner... tel ou tel. Non, parce que ça t'éloigne du pouvoir. Et souvent, quand tu es éloigné du pouvoir, un jour ou l'autre, on peut te remplacer. Alors que quand tu es proche, tu donnes ton avis. Tu dis non, voilà. Et vous voyez, bien aimé, c'est ça que nous apprend ce texte, qu'être au service du Seigneur, être proche de lui, c'est ça la plus grande richesse. Et c'est ça le véritable salaire. Alors sortons de la logique comptable qui dit, moi, ah, j'étais là à tel concert. Bon, là, l'autre concert, là, si je ne suis pas là, ce n'est pas grave. C'est la logique comptable. Vous voyez, c'est ce que ce texte nous enseigne. Si on a réalisé qui est le maître, alors on va s'empresser d'être toujours là. C'est pas l'activisme, dire non, je suis là. Non, c'est parce que on se dit mais je veux être là où est mon maître. Je veux être là. On se dit pas bon, telle sœur est là, elle va prendre tel chant. Tel frère est là, il va ah bon, ils vont tu envoies, vous savez c'est tellement facile hein, tu envoies sur WhatsApp. Bon, je serai absent. Avant même, il y avait des explications. Maintenant, on dit juste, je serai absent. Débrouillez-vous. Mais bien aimé, c'est ça la logique comptable. Mais quand on réalise que être au service de Dieu, c'est un privilège. Quel privilège est là ? Notre logique change. On change de façon de voir. Bien aimé, prions pour que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous te glorifions parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui nous parle, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu vivant, Seigneur. Nous voyons encore combien ta bonté est grande. Il y a un chant qui dit que ta bonté vaut mieux que la vie. Et ça nous dépasse. Nous voulons bénéficier de ta bonté pour nous. Mais nous avons du mal, Seigneur, à accepter cette bonté-là lorsque tu la manifestes envers les autres. Délivre-nous, Seigneur, de cet esprit, Seigneur, des ouvriers de la première heure. Tu nous rappelles ce soir que, Seigneur, nous n'avons aucun mérite, que tout n'est que grâce, Seigneur. Il est écrit dans 1 Corinthiens, qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu comme si tu n'avais pas reçu ? Seigneur, aide-nous, Seigneur, à réaliser que nous avons besoin de toi. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci de nous rappeler, Seigneur, ce soir, que d'être avec toi, c'est ça le plus grand salaire, Seigneur. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous prions pour que tu continues ton œuvre dans nos cœurs par ton esprit. Délivre-nous de la logique de comparaison. Enlève en nous, Seigneur, toute jalousie. Merci pour ta parole qui nous dit, Seigneur, que même si nous avons l'impression d'être en retard, lorsque tu es là, Seigneur, le retard n'est plus retard, puisque Lazare, 4 jours après, tu l'as ramené à la vie. Nous bénissons ton nom pour ta parole au nom de Jésus. Amen.